Derrière chaque grande boîte, il y a un grand produit. Derrière chaque grand produit, il y a des gens talentueux, passionnés et ambitieux.
Oh, that music to my ears.
On les appelle Product Manager, CPO ou Product Leader.
Oh, yes, yes.
Quel que soit leur titre, ils ont tous la même mission. Devenir la clé de voûte de leur entreprise à la croisée du design, du business et de la tech pour créer les futurs produits indispensables de demain.
Well, that's excellent.
Clé de voûte, c'est le podcast des products pour les products. Chaque semaine, je te fais passer un moment aux côtés des meilleurs leaders du produit français. Avec une mission, te livrer tous leurs secrets, méthodes et apprentissages pour devenir toi aussi la clé de voûte de ton entreprise.
You know what, I like that idea.
Ce podcast est rendu possible par Stellar, un collectif de top CPO qui ont participé au succès de startups comme Zenly, Sunday, Spendesk ou Blablacar.
I'm so happy.
J'ai cofondé ce collectif avec une mission, aider les dirigeants d'entreprises tech à créer les produits qui dominent leurs industries.
Oh, yes, yes.
Retard sur la roadmap, équipe désalignée, produits lents à décoller, ces problèmes, nos CPO les connaissent par cœur. Et ils débarquent à tes côtés pour les résoudre dans des formats rapides, actionnables et clés en main.
Well, that's excellent.
Si tu es dirigeant ou CPO et que tu écoutes ce podcast, c'est qu'on a très certainement des choses à se dire. On se retrouve sur wearestellar.io ou via le lien en description d'épisode.
Oh, yes, yes.
Je m'appelle Timothée Frein et bienvenue dans Clé de voûte. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Raphaël Corache sur Clé de voûte. Raphaël démarre dans la tech en cofondant sa start-up. Alors qu'il sort d'école, il apprend à coder sur le tas et contribue activement au développement de l'application. 2 ans plus tard, il rejoint Drivey, racheté par GetAround, et gravit les échelons jusqu'à en devenir le VP Product. Il vient sur Clé de voûte nous raconter son parcours et ses 9 ans de challenge chez GetAround. En seconde partie d'épisode, il détaille le process suivi chez GetAround pour fusionner 2 produits avant de nous livrer 2 astuces pour mieux gérer son temps en tant que Product Manager. Je te laisse quelques secondes pour te préparer et je te souhaite une bonne écoute. Salut Raphaël, comment ça va ?
Ça va super et toi ?
Ça va très bien, ravi de t'accueillir sur Clé de voûte.
Ravi d'être là, enfin !
Enfin, ouais, grave, c'est clair. Des mois qu'on le fait, mais je crois que c'est pour tous les invités qui viennent sur le podcast, on met quelques temps à préparer et à trouver un moment commun. Trop content. Raphaël, toi, t'es l'actuel VP Product de GetAround. Tu connais bien cette boîte, il y a passé quelques années. T'as commencé, comme j'ai dit en intro, en entreprenant, t'as monté une première boîte. Tu veux nous en parler un petit peu rapidement de cette boîte ?
Ouais, très rapidement. C'est une boîte qu'on a fondée avec des camarades de classe en sortie d'école qui regardaient vraiment un peu l'information que tu consommes sur le web et qui te l'organise automatiquement pour toi. Donc vraiment dans tout le domaine du bookmarking, de l'historique de navigation, etc.
Donc la boîte, c'est une aventure qui dure combien de temps exactement ?
Ça dure à peu près 2 ans. Une bonne aventure parce qu'on est entre Paris, un peu Londres. Ensuite, on est envoyé dans un incubateur au Chili pendant 6 mois. On a passé un peu de temps à San Francisco, etc. Comme beaucoup d'autres boîtes, on l'a fermé aussi et ça n'a pas marché. Mais plein d'enseignements, évidemment.
Ouais. Ouais, t'as appris à coder aussi, en parallèle ?
J'ai appris à coder en parallèle. Enfin, surtout, pas en parallèle, mais pendant, parce qu'on avait besoin de mains pour justement faire du développement, hein, je veux dire, comme dans toute boîte tech. On était assez peu et c'est là que je m'y suis mis sur le tas, coaché par quelqu'un d'autre de la team qui lui était vraiment un développeur, quoi.
T'as démarré de zéro, genre t'avais des cours, des choses quand même, ou vraiment c'est lui qui t'a mis dedans directement ?
Non, non, j'ai fait des cours dans le passé, mais des trucs pas du web, tu vois, plus tout ce qui est du C, du Java, des choses comme ça, qui t'aident pour la logique, mais pas tellement pour le développement.
Ouais. T'avais le raisonnement logique en tête, mais fallait apprendre le langage, quoi.
Ouais, voilà, ça doit être ça.
Ok. Donc tu fais 2 ans pour pousser cette boîte, que vous fermez. T'es en France du coup à l'époque quand
ouais,
tu fermes la boîte ?
À ce moment-là, quand on ferme la boîte, je suis en France, ouais, absolument.
Ok, et là tu te dis, comment se fait dans ta tête cette transition ? Ok, donc là j'ai monté une boîte, j'étais entrepreneur, j'ai créé un produit, clairement, mais est-ce que tu te dis déjà quel métier de PM c'est pour moi ou pas du tout à ce stade ?
Non, je l'ai pas pensé comme ça. Ça en faisait partie, parce que en fait... Ce que j'ai fait dans cette boîte, je le vois pas comme je codais. C'était un outil pour juste créer un produit, quoi, et répondre à un besoin. Je regardais quand même des process de PM. Il se trouve que le job que j'ai fini par avoir était entre du PM et autre chose, qui, je sais pas si c'est très descriptible. Mais oui, en fait, de facto, c'était du product management. Ouais.
Ok, et donc tu avais, à l'époque, tu avais identifié Drivee, pareil, comme une des boîtes où tu voulais aller déjà, ou c'est une occasion, tu vois, qui est un peu arrivée comme ça sur le feu.
Ça a été un peu une révélation, ouais. Ça faisait un moment que je cherchais quand même, ou parce que quelques process n'avaient pas marché, ou parce que les choses ne me plaisaient pas, j'étais en quête de sens, comme beaucoup de gens le sont aujourd'hui. Mais c'est vrai que, tu vois, dans les incubateurs, par exemple, j'ai vu beaucoup de startups qui faisaient yet another photo sharing app, etc. Et ça m'en a un peu dégoûté.
Le Airbnb de la photo.
Ouais, exactement. Bon, finalement, nous, on est le Airbnb de la voiture.
Allez, donc, bam. Voilà.
Mais il y a ce truc de... J'ai vraiment voulu aller chercher quelque chose qui me parlait beaucoup. La mobilité, ça me parlait. Moi, j'ai tout un truc aussi autour des véhicules autonomes, de tout ça. Et il se trouve qu'il y a une opportunité incroyable qui s'est aussi déclarée à ce moment-là. Donc c'est là que vraiment c'était l'opportunité inespérée.
Ouais. Trop bien. Et c'est monté par des Français, à la base ?
Ça a été monté par des Français, ouais. Tout à fait.
Toi, t'arrives quand la boîte ressemble à quoi en termes de taille ?
La boîte a peut-être 4 ans et 25 personnes, un truc comme ça.
Ouais, ouais. Ok. Et t'es la première personne à faire du plus ou moins produit, du coup ou...
Alors non, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on avait un CTO qui est quelqu'un de très câblé produit, et surtout on avait déjà un premier product manager. Mais moi, quand je suis rentré, justement, et c'est là que je te disais tout à l'heure que c'était pas tout à fait product manager mon job, c'est que je suis rentré pour faire une espèce de special project, un truc annexe, encore un peu dans mon garage, qui faisait une très très bonne transition en fait avec mon background purement entrepreneur, ouais. Les mains dans le cambouis, avec du développement aussi, parce que c'était quelque chose sur lequel ils voulaient expérimenter, donc pouvoir déverrouiller les voitures avec ton téléphone. Mais on était vraiment dans le test pour le futur, essayer de valider un proof of concept. Pardon pour tous les anglicismes déjà d'avance dans tout ce podcast.
Preuve de concept.
Preuve de concept, merci beaucoup.
Toi, je l'ai comme ça.
Et donc c'était parfait parce qu'ils étaient... Bon écoute, nous on t'embauche, toi tu te mets dans ton coin, ta carte blanche pour faire ce que tu veux, mais tu fais chier personne dans la boîte. T'as pas de dev à ta disposition, t'as pas de product manager à ta disposition, t'as pas de marketing à ta disposition, tu fais ça...
T'es un électron, quoi.
Exactement. Mmh. Et c'était génial, c'est hyper confortable. Ça veut dire que tu fais des choses qui sont beaucoup plus crado, hein, évidemment. Surtout que, encore une fois, je suis pas développeur de formation, t'as pas les ressources, etc. Mais je me suis éclaté, tu peux itérer extrêmement vite, donc ça, c'est génial. Et puis, je ne vais pas refaire toute l'histoire, mais une fois que ce truc a fini par marcher, là, évidemment, on a commencé à me donner des ressources. D'abord, c'était moi dans mon coin, et puis après, quand vraiment on a montré que c'était hyper important et viable, on a éclaté tout ce que j'avais fait, et là, c'est redevenu une priorité pour toute la boîte, avec des gens sérieux pour refaire le travail dès le début, mais de façon clean, quoi.
Trop bien. Là, je vois qu'on rentre déjà dans ce que tu faisais, ce qu'est le business de Drivee, etc. Je veux bien qu'on parle un petit peu de Drivee rapidement, que tu me dises un peu ce que c'est à l'époque. Ça a peut-être... Alors, le fond n'a pas beaucoup bougé depuis que ça a été intégré à Getaround, mais tu vois qu'on parle un petit peu quand même de ce que c'est comme modèle à la base.
Ouais, bien sûr.
C'est le Airbnb de...
On a dit c'est le Airbnb de la voiture. Donc, on a une plateforme d'autopartage, c'est-à-dire qu'il y a des propriétaires de voitures qui peuvent être particuliers ou professionnels qui mettent à disposition leur voiture ou flotte de voitures à la location via les outils que nous on propose, que ce soit le site ou les applis web, les applis mobiles, pardon. Et de l'autre côté, on a des gens qui cherchent à louer des voitures, que ce soit pour des besoins de week-end, des besoins business, vacances, etc., et qui peuvent louer ces voitures. Donc nous, on donne un cadre avec une application, un site web pour la mise en relation et puis après faire un état des lieux, machin. Et on a aussi évidemment le cadre d'assurance, c'est-à-dire qu'on a un partenaire assureur qui, pendant la durée de la location, assure la voiture.
Et c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure du projet auquel tu as contribué, qui était de pouvoir non plus passer par le propriétaire de la voiture qui te file les clés, mais d'avoir une ouverture automatique qui se fait avec ton téléphone, qui est d'ailleurs, au passage, hyper pratique. Enfin, moi, je l'ai utilisé, c'est quand même vachement cool, ce truc. C'est quand même vachement bien. Voilà, donc c'est pour ça qu'on parlait de ça tout à l'heure. Et alors, quel rapport avec Getaround, pour les gens qui ne connaîtraient pas l'historique du lien Drivee Getaround, qu'est-ce qui s'est passé, du coup ?
Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2019, Getaround, qui est une boîte, en fait, extrêmement similaire en termes de taille, de philosophie, et de ce qu'ils faisaient, tout simplement.
Mission, quoi.
Voilà, exactement. Ouais. Nous a rachetés. Donc, c'est une boîte américaine qui aussi avaient une technologie d'ouverture par téléphone.
Ils ont copié.
ils ne nous ont pas copié. Ils ont fait ça en même temps, voire peut-être même avant. Et voilà, ils ont racheté Drivey. Et donc, c'est là que, tout d'abord, ce qu'on a fait, c'est qu'effectivement, on a rebrandé pour être une marque globale, etc. Mais pendant très longtemps, en fait, derrière... On avait toujours deux plateformes et deux apps différentes. Et puis, un jour, on s'est dit quand même que c'était très important de pouvoir être tous sur la même appli, que ce soit nos utilisateurs ou les gens qui travaillent dessus derrière. Et puis, c'est de ça qu'on va parler beaucoup aujourd'hui.
Ouais, exactement. Et donc, ouais, c'est hyper intéressant, c'est que vous avez gardé les marques, alors pas les marques indépendantes, mais les produits indépendants, c'est ça ? Ouais, il y avait encore une application Drivey, une application Getaround à l'époque, quand l'acquisition s'est faite.
Donc, assez rapidement, on a fait le rebranding.
Ouais.
Et donc, l'application Drivey s'est appelée Getaround Europe.
Ok, voilà. C'est comme ça que ça s'est fait.
Mais c'est un coup de peinture. On a pris le bleu, on l'a mis en violet et puis on a changé le nom. Quoi. Ouais. C'est ça.
Alors qu'aujourd'hui, si on fait vu avant-après, c'est Getaround. Quoi. Drivey n'existe plus en tant que tel quelque part dans les registres.
Drivey, tu parles de la tech et de la plateforme, ouais. J'imagine. Alors, c'est le contraire. C'est-à-dire que la belle histoire là-dedans, c'est que l'équipe européenne et la plateforme Drivey, bah, quand on a fait tout le travail, là j'anticipe un petit peu, mais on a établi que c'était celle qu'on voulait garder pour en faire une appli globale. Ouais, fier de l'équipe.
Ouais, grave.
Mais oui, évidemment. On est très content du témoin du bon travail qu'on a fait dans le passé, quoi. Ça, c'est vraiment génial. Et donc, c'est cette appli-là qu'on a choisi pour en faire l'appli globale. Ouais.
Trop bien. Donc, toi, tu passes en tout, on a parlé, ton expérience entrepreneuriale, tu débarques chez Drivey, tu vis cette acquisition. Donc, en fait, ce qui est cool, c'est que tu as vécu des étapes de boîte super différentes. En plus, tu n'es pas arrivé au produit, donc tu as en plus appris vraiment le métier en tant que tel, tu vois, et maintenant, tu es sur un rôle de manager. Tu fais 9 ans en tout du coup chez Getaround, ça fait 9 ans que tu y es.
Ouais, là ça fait 9 ans depuis
presque une décennie. Ouais. C'est comment ça est-ce qu'il y a une étape en particulier, un moment qui t'a marqué, que tu auras envie d'évoquer là, un truc soit qui t'a vraiment challengé, soit un truc où tu dis waouh, c'était vraiment le moment hyper important dans cette expérience.
Je pense qu'il y a une raison pour laquelle ça fait effectivement 9 ans quoi, que je suis dans cette boîte, c'est que tous les 2 ans, 3 ans, il y a eu du nouveau et j'ai pu me réinventer ou la boîte a réussi à me réinventer. Et donc pour ça, je les remercie aussi. Donc quand tu dis est-ce qu'il y a une étape, non, en fait j'ai eu plein d'étapes. Il y en a eu 4-5 quoi, si tu veux. Au début, j'ai dit je suis arrivé, c'était une mini startup dans la startup. J'avais carte blanche. D'abord j'étais un, ensuite j'ai réussi à ramener du monde autour de moi. On était 5 dans ce petit truc. Après ça, il y a eu cette fameuse transition de ce truc qu'on a fait dans notre coin. Bon, bah maintenant, on doit le transférer, si tu veux, à toute la boîte. Moi, à ce moment-là, j'ai rejoint l'équipe Product Management qui était devenue plus grosse. Hein. Il devait être 3 ou 4 à ce moment-là, je sais plus trop. Et j'ai dû aussi rentrer dans un moule avec beaucoup plus de process, qui sont des bonnes choses. Mais à l'époque, moi, j'avais encore le couteau entre les dents. Voilà, c'est très dur. Tu prends un mur, pardon. Et ça m'a fait beaucoup douter. Et puis ensuite, j'ai compris tout le bienfait un peu de cette structure, si tu veux. Puis, une fois que j'ai compris ce que c'était d'être un PM, une espèce de montée un peu en compétences, en seniorité, en responsabilité, j'ai récupéré toute une moitié du produit, il y avait un petit peu de management, etc. Ensuite, encore une étape où notre ancien CPO, justement, lui est parti. Donc ça, c'était après l'intégration, où je suis devenu VP produit. Donc cette fois-ci, j'ai récupéré la data et le product design. Et puis la dernière étape, plus récemment, c'est quand on a encore avancé dans l'intégration avec les États-Unis. Cette fois-ci, j'ai récupéré un scope global, là où avant, je m'occupais vraiment que de l'Europe. Quoi.
Très bien. C'est un bel exemple d'une boîte, je trouve. Tu vois, on voit beaucoup de boîtes qui vivent des opérations de haut de bilan. Donc, quand je dis haut de bilan, c'est des fusions, des acquisitions, des ventes, etc., des cessions. Il y a peu de boîtes qui arrivent à garder leur ADN ou qui arrivent à garder les gens. Souvent, ça secoue un peu fort, tu vois. Parce que aussi, tu as ce passage souvent de petite entité à grosse entité ou l'inverse. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui partent, quoi. Et toi, j'ai l'impression quand je t'écoute que, alors bien sûr que tu vas pas exposer comme tout le monde, tu vas pas exposer tout ce qui se passe mal. Il y a plein de choses qui se passent mal dans les boîtes, mais j'ai l'impression quand même que quand je vois 9 ans dans une boîte, le fait qu'ils aient réussi à te donner la possibilité d'évoluer dans la boîte, c'est quand même une opération qui s'est super bien passée par rapport à d'autres boîtes. Où, enfin, franchement, la majorité des entreprises qui vivent ce type d'opération, la boîte est plus la même du tout un an après, quoi.
Ouais. Bon, alors déjà, je suis pas le seul. En plus, c'est ça qui est fantastique, c'est que j'ai pas mal de gens autour de moi dans la boîte qui ont fait 8, 9, 10 ans. On a tout un groupe cœur des anciens de Drivee, sans être, tu vois, les vieux cons,
oui,
le bastion de Drivee, exactement.
Le secteur fermé, quoi.
Mais en fait, on a aussi d'autres vagues de gens qui sont arrivés après et qui sont déjà, tu vois, à leurs 5 ans dans la boîte. Donc, ça nous dit quand même beaucoup de choses. Je pense que on a une team qui marche bien, qui adore travailler ensemble. Il y a évidemment la mission de la boîte, hein, qui aide beaucoup. Parce qu'on veut décarboner en ayant moins de voitures sur la route. Et après, quelque chose d'autre qui a aidé, à mon avis, donc hors du fait que c'est notre plateforme qu'on utilise, c'est que la boîte qui nous a racheté, c'est pas un groupe gigantesque qui nous a phagocyté ou quoi que ce soit. C'est une boîte qui faisait la même taille que la nôtre. Donc ça pose d'autres problèmes qui sont, ah bah tiens, tu te fais racheter alors que les autres en face, c'est un peu la même taille, pourquoi eux, pourquoi pas toi, etc. Mais donc ça, c'est aussi les lois du financement, des VC, de la Silicon Valley et tout ça, et je pense qu'il faut arriver à accepter ça. Mais effectivement, à la fin, ça donne une team qui reste avec beaucoup de rétention, et ça, on en est aussi hyper fiers, évidemment. Et au jour le jour, c'est hyper agréable de travailler avec des gens où t'as pas à essayer de recomprendre comment ils fonctionnent, de reconstruire une espèce de confiance, etc. Moi, tous ces gens-là, je leur confie mes enfants sans problème.
Trop bien. Faut pas qu'ils t'écoutent, là. Et la mission de la boîte était claire dès le début, parce que je te pose la question, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de boîtes où quand tu parles aux gens, aux produits, parce que moi, je parle beaucoup aux gens aux produits, mais je pense que c'est pas qu'aux produits. Tu vois, les gens sont pas toujours alignés et voient pas forcément très clair vers où ils vont, tu vois. Ils connaissent pas trop la direction. Quand je t'entends, j'ai l'impression que la mission de la boîte était claire quasiment jour 1. Et du coup, c'est peut-être un truc qui expliquerait le fait que les gens restent, se sentent bien, il y a pas trop de friction, etc.
Ça fait très longtemps, ouais, que la mission, elle est claire sur le fait d'avoir une volonté de démotoriser, de décarboner le transport, ouais, absolument. La mission, elle est similaire aux US, elle va pas être formulée de la même façon parce que les US, c'est un marché différent, que tout est fait autour de la voiture, etc. Donc ça, c'est pareil, tu vois, ça va amener des tensions que t'es obligé de concevoir que si tu veux décarboner, il faut que ton business aussi grossisse, donc tu vas avoir des considérations beaucoup plus financières et tout. Et de temps en temps, tu vois, ça peut te rendre un peu schizo, genre, ah mais attends, est-ce qu'on est là pour faire du bien au monde ou est-ce qu'on est là pour faire du business? Et je pense qu'il faut arriver à réussir à mélanger les deux et à comprendre aussi pourquoi l'un sert l'autre dans un sens comme dans l'autre, quoi. Mais pour répondre encore une fois à ta question, c'était clair assez tôt, ouais.
Quand je t'entends, effectivement, je vois qu'on a... Tu vois, on a passé un petit peu de temps à dire que tu étais resté longtemps dans la boîte, donc il y a eu forcément des étapes. Tout comme quand tu as monté ta boîte, en particulier au tout début de ton parcours, tu as développé cette appétence pour le code, en tout cas ouais. Cette compétence, pardon.
Ouais, ouais.
Peut-être que tu n'aimais pas ça. est-ce qu'il y a chez Drivee ou GetAround, selon l'étape de la boîte, une compétence sur laquelle tu te sentais un petit peu plus léger, un peu plus une lacune, quoi, que tu as développé et que tu t'es mis vraiment, vraiment, tu vois à la développer parce que tu pensais que c'était important?
Ouais, absolument. En fait, il y a très typiquement le management. La première chose à dire, c'est que c'est une compétence. On parle de soft skills, machin, etc. Mais c'est un skill. Je dirais, c'est un hard skill qui est soft. Et en plus, c'est quelque chose où je ne vais pas dire qu'il m'était étranger, mais j'ai un profil qui est très, tu vois, les mains dans le cambouis. J'adore construire des choses moi-même, que ce soit construire des produits ou bricoler chez moi, si tu veux, mais faire les choses moi-même, j'adore ça. Donc, tu vois, un peu le profil contributeur individuel, voilà. Ça ne veut pas dire que j'aime pas le management ou le leadership, qui est quelque chose de différent. Mais le management... et ça, je l'ai vu notamment parce que chez GetAround, on y croit, tous nos managers, on leur fait des formations. Et donc moi-même, j'ai fait une formation. C'est une vraie discipline. Il y a des vraies techniques. Y a des gens autour de toi que tu vois sont beaucoup plus forts que toi à ça, et donc tu apprends d'eux aussi. Et la discipline, elle s'apprend de façon théorique très bien. Tu peux vraiment t'en rendre compte qu'une fois que tu as les problèmes compliqués qui arrivent. Mais c'est vraiment un truc de méthode. Ça s'apprend comme tu peux apprendre du code, effectivement, je trouve. Et ça, c'est effectivement un truc que j'ai beaucoup appris chez GitHub.
Ouais. Ouais. Quand tu dis que c'est une méthode, c'est quoi ? Il y a des rituels, des choses que tu mets en place avec ton équipe, par exemple, qu'on t'a conseillé de mettre en place ?
Ouais, il y a les basiques, mais peut-être que certaines personnes ne le font même pas. Hein. Les basiques de, tu te vois toutes les semaines, tu as ton one-one avec tes reports, tu prépares tes action items, enfin c'est plutôt tes points de discussion, voilà. Mais après c'est aussi, voilà, quand tu es dans une situation qui est compliquée, comment tu la gères. Et aussi tout ce qui est autour, dans les situations où ça se passe bien. Penser à faire des feedbacks positifs aux gens, à les noter pour avoir après ton bon récap pour tes annual reviews. Aller chercher les 360 feedbacks, mais ça suffit pas parce qu'il faut aussi que ça puisse venir de toi. Mais toutes ces petites choses là, tous ces rituels là, en fait c'est hyper important. Et même encore aujourd'hui, je vois des gens dans la boîte qui sont encore plus loin dans le management que moi, parce que c'est des choses dans lesquelles ils excellent, etc. Et je trouve ça assez fabuleux de voir la différence que tu peux faire dans le coaching et l'élévation un petit peu de tous tes reports quand tu fais du bon management. Ouais. C'est hyper important.
On a pris pour acquis que les gens devaient passer manager avec l'ascension dans une boîte et tout.
Ouais.
La vérité, c'est qu'il y a des compétences qui ne se valident pas juste avec l'expérience, quoi, avec la seniorité. Quoi.
Ouais. Et d'ailleurs, pour revenir sur on a pris sur acquis, nous, donc c'est un peu une autre discussion, mais nous, on fait bien attention à justement dire c'est OK de ne pas être manager. On a besoin de gens qui sont managers, on a besoin de gens qui sont individual contributeurs, on a une track pour les deux sont valorisés de la même façon.
OK, vous avez vraiment une track qui est définie avec des gens qui la suivent.
Ouais.
Ce qui est assez rare dans les boîtes en France, en tout cas, les boîtes où il y a des products, je veux dire. Je ne connais pas le reste.
Okay. Nous on va avoir besoin de gens qui sont un peu des product lead, enfin je sais pas comment on appelle ça selon les entreprises, c'est jamais la même chose, mais ça, tu vas avoir des groupes PM ou product director, head of PM d'un côté pour la partie un peu plus management et leadership, et en revanche t'as les seniors PM, principal PM, etc. pour notre track individual contributeur, et je pense absolument qu'on a besoin des deux.
Tu me tends encore une perche là, je finis vraiment sur cette question.
Vas-y.
Est-ce que tu as eu ce choix, toi, de track quand on t'a proposé de devenir manager à l'époque ? Parce que tu avais l'air de dire que tu étais quand même assez électron au début, que tu aimais bien mettre les mains dans le cambouis.
Je pense que c'était pas aussi structuré que ça. Ça s'est fait un peu plus organiquement, c'est-à-dire j'ai commencé à prendre un peu plus de scope et donc en même temps j'ai commencé à manager une personne. Et une fois que j'ai fait mes preuves là-dessus, j'ai récupéré encore un scope un peu plus gros, etc. Donc c'était pas tout à fait aussi structuré à l'époque. On en parlait déjà, mais on était aussi plus petit comme boîte.
Clairement. Trop bien. Bah, écoute, Raphaël, merci beaucoup. On te connaît un peu mieux maintenant. Je te propose qu'on passe à la partie 2. On a du pain sur la planche, je crois savoir. Est-ce que t'es prêt ?
Ouais.
Allez, c'est parti. J'interromps l'échange 10 secondes pour te dire de ne pas oublier de noter Clé de Voûte 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcast ou la plateforme de ton choix. En faisant ça, tu m'aides à faire connaître le podcast au plus grand nombre. On reprend l'échange. Allez, on recommence, on reprend la partie 2. Qu'est-ce que tu veux évoquer comme sujet dans cette partie, Raphaël ?
On a parlé un petit peu plus tôt là, justement de cette acquisition et de prendre une plateforme pour en faire une plateforme globale. En fait, c'est un sujet, pour tous ceux qui l'ont déjà vécu, c'est un sujet extrêmement compliqué. On ne parle pas de semaines ou de mois de travail, hein, on parle vraiment d'années, enfin, en tout cas au moins une année. Et donc, vraiment comment approcher une fusion entre deux produits, c'est un truc sur lequel j'ai vraiment beaucoup bossé dernièrement, qui sort un petit peu du product management pur. Mais on pourra en parler.
Carrément. Alors là, je vais faire un petit peu de contexte pour les gens qui arriveraient sur l'épisode du mercredi, parce que cette partie, elle est aussi proposée directement toute seule en stand-alone. Le mercredi, pour donner un peu de contexte, donc Raphaël est VP
de Get Around, VP Product. Il a été, Get Around, pardon, a acheté, racheté Drivee en 2019, c'est ça Raphaël ?
C'est ça, ouais.
Ouais. Et donc, bah, il y a eu ce sujet de qu'est-ce qu'on fait des deux plateformes indépendantes ? Est-ce qu'on les fusionne, oui ou non ? Et donc, en effet, la réponse, c'est oui. Ces plateformes, elles ont, en tout cas stratégiquement, l'entreprise a décidé de les fusionner. Et donc, dans cette partie, bah, on va reprendre ça. Comment ça s'est fait ? Au produit, alors il n'y aura pas que du produit, il y aura aussi, j'imagine, pas mal de strates, pas mal de bon sens et d'opérationnel, mais c'est ce qu'on va essayer d'aborder et qui est un sujet qui n'est pas simple à aborder du tout. On a préparé le truc en étapes et justement, qu'est-ce que tu vois comme, comme étape un peu qu'on va aborder là pour, comme fil conducteur ?
Ouais, ouais, il y a beaucoup de choses, donc je me les suis un petit peu noté, mais on a, je sais pas, 7-8 étapes peut-être. Le premier, très simplement, c'est bah, de choisir le produit qu'on va intégrer à l'autre. On a deux produits au début, on n'en veut plus qu'un. Je reviendrai dessus, mais est-ce qu'on veut en prendre un, en prendre les deux, un petit peu des deux, en prendre l'autre, etc. Étape 2, c'est un peu de documenter les deux plateformes. Quelle est la différence entre les deux et qu'est-ce qu'il va falloir produire pour un peu clore la différence entre les deux. Étape 3, c'est comment on distribue la charge de travail, tout simplement. Est-ce qu'on veut une petite équipe dédiée ou est-ce qu'on veut le donner un petit peu à tout le monde, ouais. Étape 4, et ça je le disais juste avant, c'est vraiment de considérer ça non pas comme du product management, mais du project management. Étape 5, qui vient un peu avec l'étape 4, c'est tout ce qui est autour de la gestion des personnes, donc tout le people management. Très lié aussi le rôle de la communication dans tout ça. On a parlé, j'ai dit, ah, bah, c'est surtout du project management, mais il y a quand même du product management là-dedans. Et du coup, on va parler aussi un petit peu ça en étape 6-7, voilà, qu'est-ce que ça veut dire le product management dans un process de fusion. Et un autre sujet qui est un petit peu plus technique, mais tout aussi clé, donc des fusions, on n'en a pas fait qu'une, en fait, on en a fait plutôt 4 ou 5 dans l'histoire de Drivee, c'est la migration des données. Je pense que ça mérite aussi un point en soi.
Tu disais donc que l'étape 1, c'était de choisir quel produit va être intégré à l'autre, ou en tout cas, voilà, à partir duquel on va commencer un peu ce chantier. Comment ça se passe cette partie ? Comment ça s'est passé du coup pour Drivee Get Around à cette époque ?
Ouais. Donc effectivement, on commence par le commencement. Il faut qu'on se fasse une idée de à quoi va ressembler un peu l'état final avant de se dire comment on y va. Et c'est quelque chose qui peut virer en plus très rapidement émotionnel ou politique. On parle de jeter pour une team ou l'autre des années ou des dizaines d'années de boulot de toute une équipe. Les gens, ils sont naturellement attachés. Il n'y a pas de jugement dans ce que je dis. Ils ont du mal à s'en séparer, si tu veux. Et il y a aussi, hors de ça, donc hors de l'attachement émotionnel, des tas de choix produits qui ont été faits d'un côté ou de l'autre, en pensant que, pour de bonnes raisons, que c'était les bons choix produits. Et si ce n'est pas les mêmes de l'autre côté, il y a une croyance un peu naturelle que son produit, il est meilleur de façon locale, quoi. Sans forcément très bien connaître l'autre produit de l'autre côté.
Déjà que tu te bats pour une roadmap sur un même produit avec ton équipe, quand t'as une seule boîte, donc là, quand t'en as deux, j'imagine que c'est sport.
et du coup, il faut rendre un peu ce choix le plus objectif possible. Et c'est là que j'enchaîne avec ce que je présentais comme étant un peu la deuxième étape, c'est ce qu'on appelle le feature gap analysis. Donc c'est l'analyse de toute la différence entre les fonctionnalités qu'on a d'un côté et de l'autre. Ou bien parce que ça va être des fonctionnalités qui sont, disons, critiques à un marché en particulier. Donc des trucs débiles qui sont, il faut supporter les dollars si on a une plateforme qui va aller aux États-Unis. Ou vice-versa, il faut qu'ils supportent les euros. Pareil pour les time zones, des choses comme ça. Ou bien parce que ce sont des fonctionnalités qui sont propres au marché, mais plutôt au sens, les utilisateurs ne sont pas tout à fait la même chose. Les utilisateurs, pardon, ne sont pas tout à fait les mêmes. Ils n'ont pas les mêmes besoins exactement. Et ce qui marche en Europe ne marche pas forcément aux US et vice-versa. Donc tout ça, il faut vraiment le documenter. Pour comprendre un peu, est-ce que la marche elle est plus haute pour aller de la plateforme A vers la plateforme B ou est-ce qu'elle est plus haute pour aller de la plateforme B vers la plateforme A ?
Concrètement, la démarche, c'est quoi ? C'est que vous avez refait de la discovery auprès d'utilisateurs ou pas du tout ? Vous vous êtes appuyé sur l'existant parce qu'il y a plein de choses qui étaient documentées chez l'une. Il y a plein de choses qui étaient documentées dans la boîte, ouais. A ou B, j'imagine. Comment vous avez fait concrètement? C'est quoi?
Ouais, ouais, non. Donc, chaque côté a une très bonne connaissance de sa propre plateforme. Et donc, chaque côté a fait une grosse documentation de quelles sont toutes les fonctionnalités de sa plateforme. Et juste en comparant ça, en fait, nous, ça nous a suffi. En particulier, je peux donner des exemples. Hein, je commençais à parler des dollars, mais c'est vrai que nous, en Europe, on avait déjà, avec Drivee, on avait déjà 6 pays, je crois. Quelque chose comme ça. Donc, on savait faire du multi-pays, des time zones différentes, des devises différentes. On gérait l'euro, mais aussi la couronne norvégienne. Est-ce que c'est couronne? Bon.
La monnaie norvégienne.
La monnaie norvégienne, non, je le dis toujours en norvégien, voilà, dans le texte. Les pounds, enfin la livre sterling, etc. Là où les US, ils n'avaient qu'un système monétaire. Donc, c'est tous ces systèmes un peu cœur qu'il faut reconstruire, qui prennent beaucoup de temps. Et quand on a 2, 3, 4, 5, en fait, ça s'ajoute très, très vite. Et on parle directement de mois de travail en plus, si tu veux le faire dans un sens versus l'autre. Et donc, entre ça et le fait qu'à plein d'autres endroits, on a réussi à estimer que effectivement cette plateforme européenne était plus mature. Le choix s'est fait assez naturellement et facilement, quoi. Mais ça demande quand même un travail un petit peu objectif pour retirer l'aspect émotionnel dont je parlais tout à l'heure.
J'ai deux questions pour toi là-dessus. Ouais. La première, c'est ce travail-là, ce travail préalable, il a été fait avec qui? C'est que le leadership de Drivee et de Gatoround, ou est-ce qu'il y a des équipes opérationnelles qui interviennent à ce moment-là?
À ce moment-là, les leaders produits doivent, tech et data, pardon, doivent suffire. Normalement, ils ont une connaissance assez large de leurs produits pour savoir ça. Est-ce qu'on a besoin de temps en temps d'aller chercher de l'aide de quelqu'un dans une team parce qu'il connaît très très bien sur ce sujet, sur comment est câblé tout le système de flux financiers et tout? Oui, mais dans l'ensemble, tu peux concentrer ça sur un nombre limité de personnes, et c'est quand même plus efficace.
Pas les CEO, pas le comité exec côté business plutôt.
Eux, ils sont là pour plutôt pour valider les choix, mais en tout cas le travail d'exposer tout ça et de faire la recommandation, ça suffit entre les VP normalement.
Ok. Et avant de te laisser aller sur les étapes 3, 4 jusqu'à 8, ouais. Tu parlais de gestion des émotions avec cet attachement émotionnel de la part des équipes sur le travail qui a duré des années, quoi, avec tout un travail de sueur, quoi, et de réflexion. Est-ce que vous avez commencé à l'adresser à ce moment-là déjà, ou alors c'est un truc qui vient plus tard, j'imagine, dans les parties communication que tu vas aborder à la fin?
Je pense qu'à ce moment-là, presque ça nourrit le travail de documentation. C'est peut-être le seul moment où c'est encore bénéfique, parce que chacun veut montrer tout ce que sa belle plateforme veut faire, et donc ça te pousse à documenter, faire de la bonne doc sur voilà tout ce qu'on peut faire. Exactement. Donc il y a un petit effet positif, mais je pense que ça s'arrête là. Okay. Après, tout derrière, ça te met plutôt des bâtons dans les roues.
J'imagine. Donc là, vous avez pas, à ce moment-là, t'informes pas tes équipes opérationnelles, toi, que Drivee est bien pour ça et Gatoround est mieux pour ça, quoi. Il n'y a vraiment pas eu ce travail de pédagogie à ce moment-là. Là, c'est vraiment entre leaders. Vous êtes un peu effectivement en train de défendre votre truc, mais vous restez objectif sur le choix sans informer le reste de l'équipe, quoi.
Non, enfin, on est ouvert et transparent avec le reste de l'équipe. Ce que je disais tout à l'heure, c'est juste qu'on ne leur demande pas à eux de faire le travail de, oui, documentation. Mais okay, on ne retient pas toutes ces informations juste à notre niveau.
Ok, hyper clair. Donc, on a dit, au début, le but, c'est de valider, de choisir quelle plateforme va être priorisée pour devenir un peu le socle de toute cette fusion.
Ouais.
Le 2, c'est d'analyser de la donnée. T'as donné plein d'exemples, j'imagine qu'il y avait beaucoup de variables, peu importe. Mais en tout cas, vous avez fait ce travail d'analyse avec le leadership des deux boîtes.
Ouais, ouais.
Qu'est-ce qui se passe ensuite?
Ensuite, une fois qu'on a choisi, on va commencer un peu à rentrer dans le project management. On a fait une liste de fonctionnalités, on a choisi, on dit voilà, on prend la plateforme B et c'est celle-ci qu'on va devoir augmenter de plein de fonctionnalités qui manquent pour arriver à quelque chose qui marche comme la plateforme A ou pas très loin, ok, et ce gap, cette liste de fonctionnalités, en fait, dès le début, elle est énorme. On parle de centaines de fonctionnalités qui peuvent être petites ou grosses. En tout cas, dans notre cas, et pour une migration qui est aussi grosse. Évidemment, hein, quand on intègre une boîte beaucoup plus petite, qui est sur un marché très similaire au nôtre, Ça peut être fait en 3 mois si on veut. Mais dans ce cas-là, c'est vraiment énorme. Et donc, ça ne peut pas être quelque chose qui est géré par une squad ou deux squads. Et donc, dans notre cas, il y avait vraiment un enjeu à distribuer toutes ces tâches. Et à s'accorder un petit peu sur une stratégie qui va guider les choix sur chacune de ces tâches. Parce que toutes ces tâches, c'est les tâches qui font la différence. Ça ne veut pas dire qu'on doit toutes les faire. Il y a certaines choses qui sont indispensables, on en a parlé tout à l'heure, gérer les dollars. Il y a certaines choses qui sont, ça va améliorer de quelques points la performance. Oui, ben d'accord, mais faire ça, ça améliore de quelques points la performance, mais ça repousse un lancement de tant de mois. Est-ce qu'on veut le faire, etc. Et donc, il faut vraiment commencer un petit peu par cette philosophie. D'abord, de façon un petit peu, un peu plus haut niveau, quel type de timeline on veut? Est-ce qu'on veut faire la migration la plus rapide possible pour pouvoir passer à autre chose? Ou est-ce qu'on veut faire la migration qui a le moins d'impact possible négatif sur le business qu'on est en train d'intégrer? Donc, est-ce qu'on veut faire quelque chose de long, très progressif, qui peut être sur plusieurs années? Est-ce que c'est quelque chose bloc par bloc? Est-ce que c'est tout d'un coup, etc., etc. On a fait le choix d'aller vite, et je mets des guillemets à vite parce que vite, en fait, c'est difficilement en dessous de 1 an, mais avec des étapes. On a commencé par quelque chose qui était vraiment très, 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 très vite, très MVP, pour utiliser les gros mots, sur un petit marché des États-Unis, parce que c'était important pour nous d'avoir notre plateforme et de voir des locations qui commençaient à arriver, de voir ce qui marchait pas, voilà. Mais en revanche, en faisant ça, en allant très très vite, on a complètement cassé le marché en question, quoi.
Oui,
bien sûr. Mais c'était admis. C'était quand même, ça faisait mal à plein de gens, mais on était OK avec ça. C'était quand même un succès au point de vue technique du terme, quoi. On a une plateforme qui marche, il y a des locations qui se passent, qui sont faites sur cette appli qui est, qui est gérée par l'Europe.
Vous avez commencé par les US, du coup, ça, mais avec la plateforme Drivee, qui était du coup pas aux US à l'époque, c'est ça?
C'est ça, on a commencé par un état des US, la Floride.
Ok, les pauvres.
Les pauvres. Ils ont essuyé les plâtres.
Les pauvres. Et combien de temps il se passe entre cet état un peu essai, tu vois,
ouais,
cet état test, je pense que c'est le meilleur mot,
ouais,
et le déploiement peut-être déjà full US?
Ouais. En gros, on a fait, je vais schématiser, 4 mois pour faire un MVP. C'est ça. 4 mois pour faire un MVP, encore 4 mois pour avoir une version qu'on estime être vraiment très bonne, mais qu'on veut quand même valider sur un marché cette fois-ci plus gros, donc un deuxième état. Et encore 4 mois pour dire, maintenant on fignole, on a réappris des choses avec ce marché plus gros qui nous apporte plus de volume, donc on peut mesurer plus de data, etc. Et vraiment être sûr de tout ce qu'on fait. Avant d'appuyer sur le bouton. Après, il y a d'autres considérations de timeline. Tu veux lancer pas en saison haute, mais en saison basse. Tu veux pas lancer pendant des grosses vacances comme Thanksgiving, pendant l'été. Bon, bref, toutes ces choses qui peuvent te dire, on est peut-être prêt, mais on va attendre encore un mois de plus. Et donc, 4 mois. À la fin, ça nous aura pris 1 an. Mais on aurait pu décider, encore une fois, d'aller plus vite et de casser plus les choses chez eux, ou d'aller plus lentement et d'être sûr d'avoir des métriques au top. En pratique, on est très content du résultat en si peu de temps. Mais en revanche, on a vraiment dédié énormément de la bande passante de la team.
J'allais te demander justement, ouais, tu parlais de distribuer la charge de travail.
Ouais.
Finalement, c'était quoi la décision finale? C'était de mettre toute l'équipe dessus, une partie, et qui dans ce cas?
Ouais. Donc c'est une partie de l'équipe au sens où l'équipe maintenant... Telle que je la considère, c'est l'équipe globale, donc les équipes européennes et les équipes américaines. Mais comme là, on parlait de rajouter des fonctionnalités sur la plateforme européenne, en fait, c'est surtout la team européenne qui va travailler. Parce que les autres, ils ne sont pas onboardés dessus, parce qu'en plus, on avait des stacks différentes entre Ruby chez nous, Python chez eux. Et que entre-temps, il faut qu'ils fassent tourner leur business aussi. Donc, en pratique, eux en ont assez peu fait, peut-être allez, 20-25% de leur bande passante, c'était pour ça. Et nous, en revanche, on avait peut-être trois quarts de la bande passante de toutes nos squads qui a été dédiée à ça pendant un an. Ouais. C'est énorme.
Dingue. Et ça, c'est quoi? C'est la distribution de la charge, vous l'avez schématisée quelque part? Vous l'avez formalisée? Vous saviez déjà que ça allait prendre un an, je veux dire?
Ouais, je pense qu'on... En regardant la liste, en fait, en comprenant ce que je disais, un petit peu la philosophie de à quel point on est prêt à sacrifier le business d'arriver ou pas. Et nous, on savait qu'on n'était pas trop prêt à le sacrifier. On savait que ça ne pouvait pas prendre moins que ça. Ouais.
Et pendant ce temps, le business en Europe continue de tourner.
Et pendant ce temps, le business en Europe continue de tourner. Et hyper frustrant parce qu'on a les teams en Europe qui ne peuvent pas faire de travail pour le business en Europe. Donc, ils continuent à tourner. Nous, on a toutes les équipes produits et tech. Leur plaisir dans la vie, c'est quand même de faire des features pour leurs utilisateurs, machin. Et là, en fait, ils sont pas en train de faire ça. Ils sont en train de faire de l'intégration. Faut pas négliger ça non plus. Hein, un peu le poids que c'est pour les teams. Je pense que tout le monde comprend que c'est pour le bien de la boîte à long terme et tout. Mais c'est pas un plaisir au jour le jour. Hein. Ouais. Hors du fait de la satisfaction de faire des choses compliquées, mais. Donc il y a ça, et il faut penser aussi à tous les stakeholders business qui, eux, ont aussi plein de choses à demander dans la roadmap, comme chaque année, sauf qu'on leur dit c'est non, pendant un an. Voire on leur dit pendant 6 mois ou 8 mois, parce qu'on leur a dit au tout départ, non, on va aller très très vite, et puis en fait ça prend plus de temps que prévu, donc c'est encore plus frustrant, et un an c'est long. C'est très très long. Donc il y a ça pour les équipes, et puis après il y a pour le business. Bah, ça veut dire que tu fais pas des features pour ton business, et donc ton business il croit un peu moins, ou t'es obligé de dépenser plus de marketing. Donc c'est faire un truc comme ça, c'est un vrai investissement qui paye à long terme, et il y a une forme de sacrifice sur le court terme. S'il y a un conseil, c'est faut le faire le plus tôt possible, en fait, parce que plus on attend, on trouve toujours une bonne raison de « Ah oui, mais là, cette année, comme il faut qu'on arrive à faire ça, on ne peut pas se permettre. » En fait, l'année prochaine, ça va être pire. Ton business va être plus gros. Et donc, la croissance que tu vas sacrifier l'année prochaine, ça va être sur une base qui est plus grosse. Enfin, plus tu attends et plus que tu sacrifies est dur. Donc, il faut vraiment un peu arracher le sparadrap le plus tôt possible. Nous, typiquement, quand on regarde dans le passé, on se dit on aurait dû faire cette migration pendant les années Covid, enfin pendant les années confinement et tout, parce que de toute façon, le business était à zéro. Enfin, tout le monde était en confinement, on pouvait pas prendre de voiture et tout. Donc si on va vite et qu'on casse du business, bah, c'est pas grave, on casse quasiment rien.
Hormis pour tester, t'aurais été un peu embêté de tester avec
c'est
vrai
plus
volume.
Dur, c'est plus dur d'avoir du volume, effectivement.
La Floride, à ce moment-là, ça devait être un peu moins fun.
Ça devait être un peu moins fun. Mais rétrospectivement, on se dit on aurait peut-être pu faire ça. Bon, après...
Y a toujours un...
Non, mais il y avait plein d'autres bonnes raisons de ne pas le faire, parce que bah, tu sais pas si ta boîte va survivre, qu'il faut protéger le cash, donc tu mets plein de gens en furlough, etc. Mais ouais, je conseillerais quand même de le faire assez tôt, quoi.
Faire clair.
Ouais.
Donc là, on était à répartir la charge, tu vois, dispatcher les tâches,
ouais.
Trouver vraiment l'équipe qui va bien pour le faire. C'était quoi l'étape suivante que tu avais en tête?
Ouais, je parlais donc du project management. Vraiment le project management au-delà du product management. Je disais, on parle vraiment de faire des grandes listes de features. Et une fois qu'il y a ça, bah, il faut traquer que tout avance à temps, faire des phases de release sur plusieurs mois, des rétro-planning, de travailler sur des deadlines, avec des deadlines, ce qu'on fait moins quand on est sur des systèmes de roadmap un peu au quarter, etc. Et ça, en fait, ça demande impérativement d'avoir une personne en charge de faire ce travail, donc un project manager. En l'occurrence, cette fois-ci, c'était moi dans d'autres intégrations. Voilà.
Vous avez embauché quelqu'un ou pas, mais non, c'est toi.
Non. On a eu d'autres intégrations dans le passé. Je parlais de la Norvège tout à l'heure. C'est notre marché, la Norvège. C'est aussi l'acquisition d'une belle boîte qui s'appelait Nabobile. Et cette intégration, c'était un autre PM, l'équivalent d'un principal PM, justement.
On a ici, du coup.
On a parlé. J'essaie de me jeter des balles dans le podcast pour les rattraper.
j'ai vu ça. Il fait les gestes, là, vous ne voyez pas, mais.
donc ouais, il faut du project management. Et si je reviens donc aux tâches par squad, donc j'ai dit on a distribué un peu cette liste de 100 features de façon au plus équilibrée donc entre toutes nos squads. Ça demande d'impliquer des stakeholders business aussi, parce que beaucoup de ces tâches, de ce qui doit être ajouter, enlever, ce sur quoi on fait des compromis ou pas. Ça relève des règles métiers, des process qui vont avec. Et donc toujours sur le project management, en fait le project management c'est amener une grande liste de tâches à un bon endroit, mais c'est aussi amener beaucoup de personnes à un nouvel endroit, qui est une forme d'endroit de complétion où ils sont onboardés, et onboard, c'est-à-dire qu'ils comprennent ce qu'ils doivent faire maintenant dans ce nouveau monde, mais aussi ils y mettent du leur. donc, c'est des nouveaux systèmes, des nouveaux process, et c'est un peu comme si tu as une boîte, on parle pas de merger et tout ça, de fusion, mais je te demande d'onboarder une centaine de nouveaux arrivants dans ta boîte. Alors, il y a des boîtes en hyper-croissance qui doivent faire ça, mais en fait, les boîtes qui se retrouvent comme ça, je pense qu'elles ont vraiment du staff pour le faire, elles ont des systèmes, des process, tu sais que tu le fais pour longtemps. Nous, c'est du one-shot, donc tu n'as pas forcément tous les process. Et c'est là, encore une fois, qu'avoir un project manager, ou en l'occurrence, il y a même une deuxième personne qui est venue m'épauler là-dessus, tellement c'est important, c'est clé parce que tu vas avoir besoin de passer beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps avec tous ces gens-là pour les amener justement dans ce nouveau monde. Et les tâches, tu peux les amener comme tu veux. Les personnes, et je reviens un petit peu à les différentes priorités qu'ils ont parce qu'ils ont toujours leur business à gérer, au l'attachement à ce qu'ils avaient avant, tu vas avoir en plus un petit peu d'opposition à ça, tu vois, un peu de retenue. Et ça, c'est hyper dur aussi à gérer.
Comment tu as fait concrètement? C'est de la pédagogie, j'imagine, et l'explication de la com à nouveau, leur expliquer un peu la mission et pourquoi vous faites ça. C'était quoi? Là aussi, il y a eu des meetings qui étaient préparés pour ça, de l'individuel.
Il n'y a pas de... Encore un anglicisme, silver bullet, je ne sais pas comment...
Balle d'argent.
Ouais, balle d'argent. Non, mais il n'y a pas de carte joker qui règle tout. Ça a juste pris beaucoup, beaucoup de temps. Et tu t'en parlais au tout début, hein, tu dis « Ah oui, là, on va parler des trucs qui sont super. On dit toujours ce qui va bien dans les boîtes. Je n'ai pas de problème à dire que ça, c'est un truc qui nous a posé problème, sur lequel on a galéré. Au départ, ça ne se passait même pas très bien, la collaboration, en fait. Et ça a été dur, ça a pris du temps. Je pense qu'il faut une résilience extrêmement forte, qu'il faut comprendre d'où les autres viennent, pourquoi en fait ils sont dans cet état d'esprit. C'est vrai que pour nous, c'était très très dur. Je te disais, on dédiait la majeure partie de nos ressources pour d'autres gens, pour un autre marché qui ne nous concerne pas, parce qu'en fait, on était encore Getter en Europe / Drivey, si tu veux, un petit peu dans nos têtes. Vu que jusque-là, on opérait toujours notre business européen. Donc, on fait tout le travail pour eux, et eux ne nous aident même pas à faire ce travail, et on ne fait rien pour notre truc. Tu vois, et du coup, dès que tu as la moindre frustration, tu
reviens sur ça, quoi.
Ouais. C'est un peu le aide-moi à t'aider, quoi. Nous, on est là, on leur demande plein de choses. Ah, mais moi, je ne peux pas décider, je ne peux pas comprendre ton truc, je ne peux pas faire les trade-offs parce que tu ne me files pas l'info. Aide-moi. Les gens ne répondent pas en face parce que eux, ils n'ont même pas conscience que c'est important, que ça doit être dans leur priorité, si tu veux. Et donc ça demande vraiment beaucoup, beaucoup de, je te disais, de résilience. Je pense que, et je ne l'ai pas forcément été tout de suite au début, mais la personne qui est en charge de ce project management doit être vraiment irréprochable. Ne jamais, enfin surtout ne pas transmettre justement plus de frustration. Au contraire, tu es censé être tampon, tu es censé calmer les gens quand ils sont frustrés. Et c'est dur parce que toi aussi tu le ressens, donc tu dois prendre pas mal sur toi. Et après, je reviens sur ce truc de MVP de Floride. Ça, c'est quelque chose qui a été clé aussi, une espèce de petit point pivot où c'est devenu un peu réel pour eux. Parce que enfin, il y a des locations qui se passent chez eux. Alors, il n'y en avait pas beaucoup, donc c'était réel, mais pas trop. Il a fallu encore attendre l'étape d'après pour avoir, tu vois, encore plus d'investissement de leur part, mais c'est là que je te dis que c'est une combinaison de plusieurs choses. C'est beaucoup de patience, être zen, devenir beaucoup plus politique dans ta vie, et là-dessus j'ai beaucoup appris. Rendre les choses concrètes avec ce fameux MVP, et puis après plein d'autres choses comme sortir la data tout le temps, des rituels, c'est-à-dire ça marche pas le truc asynchrone, etc. Ben, vous savez quoi, on fait un meeting toutes les semaines de 30 minutes où on se regarde dans les yeux, où les gens qui font pas leur travail, on peut un peu tu vois, une espèce de mini pression saine, hein. c'est pas des très jolis mots, mais en fait il faut quoi. Et donc c'est vraiment une combinaison un petit peu de tous ces trucs, et je reviens au fait qu'il n'y a pas un élément qui a...
Qui a
tout débloqué.
Tu parlais de la communication d'ailleurs en étape 6, c'est ça la communication, c'est le fait de ritualiser les choses, de faire se rencontrer les gens, de continuer à passer les mêmes messages tout le temps pour que ça rentre dans la tête de toutes les équipes en Europe et aux US.
Ouais, absolument. Du coup j'ai un peu effectivement mélangé les étapes, mais communiquer c'est critique, faut vraiment faire comprendre aux gens pourquoi on le fait, pourquoi on a besoin d'eux. Et il n'y aura jamais trop de communication, que ce soit pour le produit et pour le business, aussi envers les execs, toute la team d'execs, parce que là, j'ai beaucoup parlé un petit peu du travail dont on avait besoin des teams directement, mais les execs, ils sont là, on va souvent leur demander de valider des décisions pour aller dans une direction ou dans une autre. Et ça, parfois, c'est difficile à obtenir. Et donc, il faut vraiment. Donc, ils vont toujours tout vouloir. Moi, je voudrais que ça aille vite et que, en plus, il y ait pas d'impact sur le business. tu peux pas tout avoir. Et donc, vraiment leur expliquer pourquoi, vraiment quelles sont les options, qu'est-ce qu'on recommande, etc. Ça c'est pareil en fait, donc je parlais d'un rituel hebdomadaire avec toutes les teams opérationnelles, j'avais aussi un rituel hebdomadaire avec tous les execs pour faire le point, leur donner de la visibilité et être sûr que je pouvais débloquer certaines décisions. Et il y a autre chose qu'on a un peu établi là-dedans, donc il y avait ce fameux rituel, et il y a aussi on a essayé d'objectiver.
Ouais, je sais pas si on... C'est bon, ça. C'est bon. Ouais.
La décision de est-ce qu'on appuie sur le bouton ou pas. Parce que jusque-là, c'était très théorique de à quelle vitesse on veut aller, est-ce que oui ou non on veut protéger le business. Et en fait, on a fait une liste de métriques, de KPIs, qu'on a essayé de réduire au maximum, sur lesquelles, pour chacun, on a dit qu'est-ce qui est acceptable ou pas. Donc voilà, l'impact sur l'EBITDA, on veut qu'il soit de maximum moins 7%, je dis n'importe quoi. L'impact sur la top line, donc le revenu, ça doit être de moins 10%. L'impact sur je sais pas quel est le truc, sur les revenus propriétaires, ça doit être de temps, voilà. Et une fois qu'ils ont été figés, ces trucs-là, nous, on n'avait plus qu'à exécuter sur, est-ce qu'on est arrivé au bon niveau ou pas ? Et on s'était donné justement une date qu'on a appelé le go no go. On s'est dit voilà, à cette date, on va revoir toutes ces métriques dont on a parlé. On va revoir si oui ou non on a atteint via les fameux premiers marchés qu'on avait déjà lancés. Donc on peut avoir de la vraie data terrain. On a atteint tous ces niveaux de KPI. Voir par exemple celui-ci on n'y est pas tout à fait, mais regardez, on a un plan pour y arriver, on a les features qui vont nous permettre d'y arriver, qui sont presque shippées ou quoi que ce soit, et avec ça on peut mettre le tampon. Et ça c'est un truc aussi qui nous a beaucoup aidé, parce que sinon toutes les discussions tournaient vraiment en rond sur est-ce qu'on va le faire, est-ce qu'on va pas le faire, non il faut qu'on le fasse plus tard, nanana.
T'avais une date d'arrêt quoi.
Ouais, exactement. Ouais.
Il y avait deux, trois autres sujets que tu voulais aborder pour finir sur cette partie de fusion entre les deux produits. C'était quoi, Raphaël ?
Ouais, on a parlé beaucoup de project management, mais quand même, je voulais parler un petit peu de produit là-dedans. Et il y a plusieurs éléments dont je voulais parler. Le premier, c'est un peu qu'on a amené de... Donc, en plus des métriques, de la data, tout ce qu'on a mesuré, on a amené de la user research pour bien comprendre quels étaient les trous dans la raquette. Ça nous a permis de vraiment bien prioriser les features qu'on comptait faire ou pas, d'ailleurs. On a aussi fait un gros travail sur la copie. Et notamment pour tous les utilisateurs qu'on doit transférer d'une appli à d'une autre, il y a un gros enjeu de pas trop les perdre. Et voilà, on a une UX writer qui a beaucoup bossé là-dessus, qui a aussi bossé sur l'harmonisation de la terminologie, parce qu'en fait, on a des concepts qui sont les mêmes, mais on ne donnait pas les mêmes noms. Et donc ça, que ce soit pour les teams ou les utilisateurs, c'est hyper important. Et on a accéléré notre travail aussi sur la localisation. Donc ça faisait un moment qu'on faisait de la localisation, je disais, pour nos 6-7 pays en Europe, mais là on a décidé en fait même de concrétiser une squad qui est une squad localisation, qui est là pour faire un peu du produit cœur sur lequel toutes les autres squads vont pouvoir se reposer pour localiser notre produit de façon plus efficace. Plein de choses bêtes comme les formats de date, les calendriers qui commencent le dimanche aux US, des choses comme ça pour ceux qui en font déjà, ça leur parlera. Il y a d'autres choses comme la présentation des prix, et ça j'en ai parlé avec d'autres boîtes assez récemment, comme Back Market par exemple, où les moyens de paiement sont très différents aux États-Unis. Beaucoup de crédit card, de lignes de crédit et tout ça. La présentation des prix, en général, on montre beaucoup de subtotals qui sont beaucoup moins élevés. Et puis, au moment de payer, il y a plein de frais qui se rajoutent, alors que chez nous, on montre des totaux en entier. Mais si on montre le total en entier dès le début sur la recherche, tout le monde se dit « Ah, mais c'est beaucoup trop cher, je me casse !» Donc, plein de travail qui a été fait là-dessus. Et la dernière étape, peut-être, dont je parlais, c'était tout ce qui était migration des données. Donc ça, quelque chose de beaucoup plus technique, en parallèle des fonctionnalités. C'est qu'il faut déjà définir tout ce qu'on va migrer ou pas. Donc, il faut qu'on migre les propriétaires sur notre plateforme, les voitures sur notre plateforme. Mais par exemple, les locataires, donc les clients finaux, il y a une question. Est-ce qu'on veut les migrer ou est-ce qu'on veut juste dire ils vont se recréer un compte ou quelque chose comme ça. Bon, on a décidé de les migrer parce qu'il y a quand même un enjeu de conversion, mais est-ce qu'on veut migrer les locations qu'ils ont fait dans le passé? Bon, est-ce que c'est important ou pas? Exactement. Et tout ça, ça rajoute beaucoup de boulot. Une fois qu'on a les voitures, les disponibilités des voitures, les prix des voitures, c'est vraiment énormément de données. Donc il y a plein de pipelines techniques à gérer entre la tech et la data là-dessus. Et donc ça, c'est vraiment au cas par cas. Il y a toute la catégorie de ceux qui sont évidentes. Mais là, on est déjà en train d'anticiper sur une autre migration. J'ai l'impression qu'on en fait beaucoup. Mais l'avantage, c'est qu'on commence à devenir expert. Et c'est un des premiers trucs qu'on regarde, la migration de données. Ouais, exactement.
Là, on l'a fait comme dernière étape parce qu'on l'a expliqué comme ça, mais c'est un truc aujourd'hui que vous
regardez. Ouais, c'est vrai, j'aurais pu commencer par là.
On n'est pas sur du chronologique pour info là. Là, on l'a fait comme ça pour expliquer comment tu as fait pour cette première fusion, mais faut pas le voir comme chronologique. Ça.
Ouais. On devrait tricher et le changer dans l'ordre du podcast. Voilà, à l'editing, exactement.
On va laisser comme ça.
Voilà, et le tout petit dernier truc que je racontais pour conclure, c'est que c'est quand même une occasion de fédérer beaucoup de gens, et il faut surtout pas rater ces petites occasions. Donc nous, on a eu un petit peu ces lancements intermédiaires. À chaque fois, on en fait une grande fête, et c'est hyper important. Ça rassemble tout le monde. Alors, on n'est pas SpaceX dans la mission control à regarder si la fusée va exploser ou pas. Mais il y a un peu de ça, quoi. Et limite, on en rajoute. On stage un peu le truc. Tout le monde est là. Les confettis, les machins, les confettis. Les gens qui appuient sur les boutons, on va mettre des boutons marrants, des écrans derrière, tout un peu en real time. Et après, il y a aussi ce truc un petit peu de cet esprit hackathon où on est là. Il y a des choses qui cassent. En tout cas, au moins la première fois, au fur et à mesure des lancements, là, ça va évidemment de mieux en mieux. Et t'as tout le monde qui est là sur son ordi en train d'investiguer les bugs. Ça finit tard, on est tous contents. C'est des super moments, et c'est là que tu retrouves aussi l'esprit startup, même si tu es devenu une scale-up un peu plus gros. Et je pense que tout le monde y pensera, mais faut vraiment pas l'oublier, parce que comme je disais, c'est long. C'est un grand sprint marathon, et ça fait plaisir quand on peut célébrer ces moments-là.
Trop cool. Écoute, merci beaucoup pour tout ce que tu viens de nous livrer, Raphaël, et de manière transparente en plus. On a vu que c'était pas que des étapes qui marchaient à chaque fois. Donc, je crois que c'est ce qu'il faut retenir aussi. À nouveau, ce que disait Raphaël au début, c'est que il y a pas de loi universelle. Tel que l'approche a été faite et a été suivie chez Driving It Around, qui a été apparemment reproduit sur d'autres migrations. Mais en tout cas, il y a plein de petites guidelines intéressantes et des petits réflexes à venir chercher et copier, là, je crois.
Ouais, et évidemment, avec plaisir pour en discuter avec qui ouais. veut et qui a une grosse migration à faire. Voilà.
Trop bien, on laissera le contact. Je te propose qu'on passe à la troisième partie ouais. de cet épisode, Raphaël. Est-ce que tu es prêt ?
Ouais, avec plaisir.
Eh bien, on y va, on plonge, let's go. Allez, let's go pour cette troisième partie. De quoi tu veux nous parler ?
Ouais, moi je voulais peut-être parler de conseils pour mieux gérer ses priorités en tant que PM. La première chose, c'est vraiment sur le time management. La deuxième, c'est plutôt sur la délégation. Donc ça, c'est plutôt pour les managers, évidemment. À commencer donc par le time management. La première chose, c'est déjà de se dédier du temps chaque semaine pour faire du time management. Donc, je sais pas, 30 minutes au début de la semaine gérer un peu sa to-do, planifier sa semaine, etc.
Son agenda perso, tu
vois. Ouais, exactement. Ouais. Enfin, perso, professionnel. Enfin, mais
oui, perso,
exactement.
Projet individuellement.
Ouais. Exactement, ouais. Ouais. Et c'est bizarre de se bloquer du temps parce qu'on a l'impression qu'on en perd, mais en fait, on peut gagner beaucoup plus. Ou alors... En tout cas, générer plus d'impact pour la boîte en faisant ça.
C'est quoi concrètement ces débuts de semaine, t'arrives, tu te dis, voilà, qu'est-ce que j'ai à faire cette semaine en prio et...
Je sais qu'il y a des gens qui aiment faire ça en début de semaine, d'autres plutôt le vendredi où c'est calme, ils prévoient la semaine d'après. Pour le coup, je laisse à chacun de faire comme il préfère. Mais en tout cas, de se dédier, de se bloquer du temps pour dire, là, ce que je fais... c'est un peu de l'admin de mon agenda ou de ma to-do, quoi.
Ok, ouais. Super clair.
Moi, j'ai une simple liste courante avec un outil pour ça, et puis je réordonne. Je l'alimente chaque jour. J'essaye d'avoir plusieurs petits points de passage dans la semaine où je peux regarder et dépiler des trucs, mais sinon, d'avoir un bon moment dans la semaine où je peux vraiment planifier sur allez, quelles sont vraiment mes priorités pour la semaine. Quoi.
C'est un outil de to-do et d'agenda, ton outil à toi ?
J'utilise Things pour ceux qui okay. connaissent. Voilà. Okay. C'est un truc un peu dérivé ou bien fait pour la méthode Getting Things Done, je crois,
okay.
Que je ne suis pas spécialement à la lettre. Mais l'outil est très bien fait pour une raison qui marche bien pour moi, c'est la capture rapide. Voilà. Il y a probablement plein d'outils qui le font, mais on est en train de discuter avec quelqu'un, pouf, on a un shortcut, on a rajouté quelque chose et puis... Voilà. Voilà, j'utilise aussi pas mal les reminders aussi pour les choses sur lesquelles j'ai plus rien à faire, mais je veux être sûr que ça tombe pas dans les oubliettes et qu'il y a un follow-up. Donc oui, je fais confiance aux gens de façon générale, mais pour les choses qui sont vraiment importantes et où je me dis, voilà, bah, ça arrive hein, que les gens aient d'autres priorités. Je ne connais pas leur agenda et leur liste de priorités par cœur. Et donc, voilà, hop, un petit reminder pour la semaine prochaine. Comme ça, moi, je n'ai pas laissé mon mail ici, à laisser ma tâche qui est là. Hop, ça peut me libérer un petit peu d'espace mental. Et je trouve qu'en tout cas, ça marche bien.
C'est sur Things, ça aussi ou...
Et ça, c'est ou sur Things ou sur tout simplement sur Gmail. Je reschedule ouais. Des okay. emails que j'ai envoyés. Pour qu'ils me reviennent. Gmail le fait un peu automatiquement d'ailleurs, des trucs genre ah, t'as envoyé un truc à quelqu'un, pas de réponse dans ce thread depuis deux semaines, est-ce que tu veux.
Ouais, ils apparaissent tout en haut.
Ouais, enfin, exactement. Mais faudrait faire confiance 100% à
ouais,
Gmail.
Moi, je suis pas complètement confiant. Ouais, ça doit marcher, certainement.
Ça marche, c'est ça qui est terrible, ça marche bien, mais tant que t'as pas 100% ouais, confiance, t'es obligé d'avoir ton système. voilà, et sinon. Si on veut donner un framework au départ, je trouve que la matrice d'Eisenhower, donc un axe importance des tâches versus urgence de la tâche, c'est un plutôt bon outil. Je pense qu'au fur et à mesure, en fait, on n'a plus besoin de mettre choses dans une case. En fait, on a notre to-do et on les organise juste parce que mentalement, on fait ce travail-là. Mais en fait, même si on ne l'utilise pas, je pense qu'on l'utilise derrière, quoi. Et le deuxième point dont je parlais, donc cette fois-ci plus pour les managers, c'est la partie délégation. Et là, ça me vient d'un très bon webinar que j'ai vu d'un product leader aux États-Unis, un peu dans tous les GAFA, qui s'appelle Shreyas Doshi. Je vous recommande vachement d'aller voir ce qu'il fait. Je ne sais pas si tu le connaissais.
Twitter, Stripe aussi.
Ouais. Qui lui a une autre matrice qui est donc une matrice de Pardo aussi, de quel est le leverage de la tâche, c'est-à-dire voilà, si moi j'ai investi 1, est-ce que ça va rendre 0, 1, 1 ou 10 versus qui peut faire la tâche, est-ce qu'il y a vraiment que moi qui peux la faire versus quelqu'un d'autre. Donc ça c'est pareil, on se retrouve avec un cadran quatre côtés et évidemment tout le monde a compris, il faut se concentrer nous-mêmes uniquement sur ce qui est très high leverage et qu'il n'y a que nous-mêmes qui pouvons faire. Et pour tous les autres, je ne vais pas l'expliquer là parce que c'est beaucoup mieux visuellement et en plus je ne veux pas voler son très bon boulot. Donc encore une fois, je l'ai cité.
C'est pas celui-ci qui
l'écrit. Alors LNO, c'est vraiment la partie leverage. Au début, ouais. Mais après la partie délégation, je ne sais plus quel nom, c'est Radical Delegation qu'il l'appelle. Et c'est un peu utiliser LNO d'un côté et puis de l'autre côté, c'est le est-ce que c'est que moi ou est-ce que c'est pas que moi.
Il y a le
cadran sur lequel, enfin le quart sur lequel nous on doit se concentrer, et sur les trois autres, ce qui est très 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 intéressant, c'est que les trois autres se délèguent, mais se délèguent de façon différente. Et donc il insiste sur un truc qui s'appelle le contrat de délégation. C'est-à-dire que il y en a, on va déléguer en disant bah tiens voilà je te fais confiance, tu fais ça. Et il y en a d'autres où on va déléguer en disant voilà je te donne ça et je vais exceptionnellement te micromanager là-dessus. Enfin, je vais être très, très, très impliqué parce que c'est tellement important qu'il faut que je regarde. C'est pas parce que je te fais pas confiance et il faut que ce soit OK pour tout le monde. Et après, un autre où c'est bah, progressivement, on va amener la personne à être capable de le faire pour qu'il n'y ait plus que soi-même qui soit capable de le faire. Et puis comme ça, on a investi un petit peu pour l'avenir. Mais bon, il le raconte encore mieux que moi, mais je trouvais ça... hyper hyper bien. Il y a pas beaucoup de choses qui me frappent dans tout ce qu'on voit. Il y a plein de bonnes choses, mais je l'ai trouvé effectivement assez pertinent et je conseille ça à mes PM directement. Ouais.
Merci beaucoup pour ces tips, super cool. En peu de temps là, on a eu plein de choses à essayer. Je mettrai les liens, en tout cas de tout ce que j'ai retenu directement dans la newsletter du podcast. Raphaël, on passe à la dernière. Je refais. Oh oui. Raphaël, on va pouvoir passer à la dernière partie de l'épisode. Il s'agit des questions flash. Je vais te poser 4 questions et tu réponds vraiment le plus rapidement possible.
Ok. Il y a un jingle?
Normalement, ouais. Il n'y a pas de jingle. Est-ce que tu es prêt?
Allez, c'est parti.
Allez, c'est parti. Quel conseil donnes-tu à tes product managers pour progresser?
J'ai pas un conseil qui marche pour tous. Chaque profil est différent. D'ailleurs, c'est tant mieux hein, pour la richesse de la team. Mais j'ai plutôt un framework de carrière. Et en fonction de chaque profil, bah, on construit des OKR pour atteindre leurs objectifs. Quoi.
Et pour une deuxième question, du coup, quel conseil tu donnerais pour un PM en début de carrière?
Ça, je dirais construire des choses, faire des side projects. Je trouve qu'on apprend beaucoup en faisant. Enfin, ça me renvoie évidemment à mon expérience où... où j'étais dans mon garage, voilà. Avant tout, je pense que ça prouve que c'est un job que tu aimeras faire.
Quelle est ta question favorite à poser en entretien?
Alors, c'est pas pour les PM, c'est plutôt pour les devs, les analystes, les designers, les gens qui collaborent autour. C'est est-ce que tu as appris quelque chose récemment? Est-ce que tu peux me l'expliquer comme si j'avais 8 ans, comme si j'y connaissais rien? Je trouve que c'est génial pour tester la communication un peu dans la collaboration. Ouais.
Et pour finir, qu'est-ce qui a été game changer en termes d'organisation dans ta boîte chez GetAround du coup?
Nous, c'était il y a assez longtemps, c'est le fait d'inclure les business stakeholders dans les squads pour les faire participer aux priorisations des roadmaps. Ça enlève énormément, énormément de frustration pour tout le reste du quarter. Ouais, c'est assez magique.
Trop cool. Merci beaucoup Raphaël d'être venu sur Clé de Voûte.
Bah, merci à toi.
Content d'avoir reçu. Je passais un super moment.
Pareil.
Et puis écoute, au plaisir de te retrouver à nouveau au micro ou dans un autre contexte pour me parler de challenge que tu as vécu.
Yes, à bientôt.
Salut, bye. Salut. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu.
I have everything here.
Si c'est le cas,
Tu peux me soutenir de deux façons. Laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify et un petit commentaire, ou partager cet épisode à une personne de ton entourage.
Oh, yes, yes.
Je te remercie vraiment pour tes retours. C'est grâce à toi que j'améliore Clé de Voûte pour le rendre utile à ton quotidien.
Darling, this trip's an inspiration.
Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode riche en contenu actionnable. À très vite.
I'm so happy.